BW. Droits et libertés.
Pourquoi les pays riches ont-ils décidé d'aider les pays les plus pauvres? Comment est-ce que l'aide humanitaire et la coopération ont évolué ces 50 dernières années en Allemagne? Comment établir un partenariat d'égal à égal avec l'Afrique? Voici des questions dont nous parlons cette semaine et la semaine prochaine avec Matthias Mogge. Il est secrétaire général de l'Agroaction allemande, la Welthungerhilfe, et il siège au conseil d'administration de FENRO, une plateforme d'ONG spécialisée dans l'aide humanitaire et le développement. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous. L'occasion de notre rencontre, ce sont les 50 ans d'une loi qui a été adoptée en Allemagne de l'Ouest à l'époque, donc en 69, pour régir le statut des coopérants qui étaient envoyés donc depuis l'Allemagne dans des pays qu'on appelait alors les pays du tiers-monde, souvent. Quelle était l'idée qui prévalait à l'époque en RFA? Comment est-ce qu'on concevait cette idée d'aide humanitaire ou de coopération?
Après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la tyrannie nazie, l'Allemagne voulait aussi montrer au monde qu'on a changé et qu'on veut jouer un rôle complètement différent dans le monde. Et la coopération technique, la coopération économique, etc., était un outil pour montrer qu'on peut aussi faire autre chose hein, que envoyer la guerre dans le monde. Hein. Et c'était une autre, complètement autre réflexion, aussi politique, mais aussi une autre réflexion politique étrangère qu'on a introduite à l'époque.
Donc ça partait d'une idée plutôt généreuse de se dire il y a des gens dans des pays ailleurs dans le monde qui ont moins que nous et donc on peut peut-être les aider en distribuant des vivres, en distribuant du matériel par exemple, des choses comme ça?
Oui, par exemple, mais l'Allemagne a évolué à l'époque assez rapidement comme pays exportateur. Et on a aussi pensé, bon, si on peut contribuer à un développement des différents pays, qu'on peut éventuellement aussi exporter nos biens aux ces pays. Donc c'était aussi une idée assez tôt, pas uniquement la solidarité et aide humanitaire, etc., mais aussi une idée économique derrière. C'est pourquoi notre ministère s'appelle aussi ministère pour le développement économique.
Ça pouvait être aussi un instrument pour le gouvernement allemand de se faire connaître et aussi de faire connaître les productions allemandes et peut-être de propager des marques ou des objets, des biens de consommation allemands.
Oui, absolument. Et comme l'Allemagne n'a pas eu un héritage colonial, comme d'autres pays, comme l'Angleterre ou la France, je crois que les Allemands ont eu dans beaucoup de pays une réputation assez bonne et peut-être aussi un peu neutre. C'est pourquoi beaucoup des coopérants, des travailleurs humanitaires ont eu toujours très très souvent, et je connais ça moi personnellement, vraiment des rencontres très très positives. Beaucoup de gens ont pensé, l'Allemagne c'est la qualité et c'est la ponctualité, peut-être quelques stéréotypes des Allemands, mais c'était perçu plutôt positif.
Il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, on est en pleine guerre froide et que donc c'est aussi important pour un État du bloc de l'Ouest occidental comme la RFA de se positionner, d'être présent dans des pays pour contrer une éventuelle influence de l'Union soviétique.
Absolument, absolument. Pendant des années 70, surtout, la politique de la guerre froide a joué un grand rôle, par exemple en Afrique, qu'on voulut éviter que d'autres pays vont s'associer avec le bloc de l'Est. Hein. Et je crois que l'Allemagne de l'Ouest voulait montrer au monde que nous sommes aussi un pays qui peut jouer un rôle positif dans votre développement de votre pays. Et on va montrer cela avec l'argent, surtout, mais aussi avec du personnel.
Et à l'époque, on coopère beaucoup avec les États, avec les gouvernements qui sont en place. À la fin des années 80, dans les années 90, c'est la fin de la guerre froide, le monde change totalement. Et en plus, on se rend compte que peut-être ce n'est pas une bonne idée de travailler qu'avec les États ou avec les gouvernements qui ont tendance parfois à mettre l'argent de la coopération, de l'aide dans leur poche, plutôt que de l'investir au profit des populations. Et c'est là qu'on commence aussi à diversifier un petit peu les partenariats, à chercher d'autres interlocuteurs sur place.
Absolument. Je crois dans la politique de la coopération en Allemagne, la société civile a toujours joué un certain rôle. Il y avait toujours aussi des titres financiers pour la société civile, mais ça a augmenté. Et même aujourd'hui, je crois que le rôle de la société civile est extrêmement important aussi pour la coopération allemande, mais aussi d'autres acteurs ont émergé. Par exemple, le secteur privé. L'Allemagne a aussi vu l'importance des Nations Unies. Et aujourd'hui, l'Allemagne est un des bailleurs de fonds les plus grands pour les Nations Unies parce qu'on est l'avis qu'on peut résoudre les problèmes globaux qui sont aujourd'hui là uniquement avec un certain multilatéralisme.
Justement, vous parlez des Nations Unies. Les Nations Unies, dans les années 70, déjà, ont demandé à leurs États membres de s'engager à verser 0,7% du produit intérieur brut à l'action humanitaire ou l'aide au développement ou la politique de coopération. L'Allemagne s'y est engagée. Elle a renouvelé ses engagements au sein de l'Union européenne. Or, aujourd'hui, donc plus de 40 ans après, presque 50 ans après, on est bien loin du compte encore. On est à 0,4%, quelque chose comme ça.
5.
Bon, il y a du mieux, mais on est encore loin des engagements des années 70.
Vous avez absolument raison. Il y avait cet accord, et on est encore assez loin. Et la société civile n'arrête pas à souvenir... au gouvernement, l'Allemagne, mais aussi des autres pays industrialisés, de mettre cet accord et cette promesse, en fait. Et je crois que c'est aujourd'hui toujours extrêmement important qu'il y aura cet investissement. Mais par contre, on a aussi aujourd'hui un paysage un peu différent. Il y a d'autres bailleurs de fonds qui sont engagés, par exemple en Afrique, comme la Chine, mais aussi la Russie, par exemple, le Brésil, les pays comme la
Arabie Saoudite,
exactement, comme Bahreïn, Koweït, etc. Ces acteurs jouent aujourd'hui un rôle peut-être plus grand que la coopération traditionnelle, hein, parce qu'ils ont aussi notre modèle de coopérer avec ces pays.
En 2001, après les attentats du 11 septembre à New York, le monde a encore changé. Il y a eu encore une autre constellation, peut-être une accentuation aussi des activités d'aide qui passaient aussi par des structures religieuses. Vous parliez de l'Arabie Saoudite ou des Émirats qui aident aussi par le biais de structures islamiques d'aider ou d'ouvrir des écoles aussi à des visées politiques. Mais aussi, dans les conflits, beaucoup de choses ont changé. Il y a beaucoup plus de guerres asymétriques, c'est-à-dire que les acteurs des conflits ne sont plus les mêmes. Et là aussi, ça change quelque chose, non, pour l'aide humanitaire et l'aide dans des zones de crise. On n'a plus du tout les mêmes interlocuteurs, ce ne sont plus forcément des armées.
Oui, c'est vrai. Il y a aujourd'hui aussi d'autres acteurs dans des pays où nous, comme ONG, travaillons, comme les militaires des différents pays. Il y a aujourd'hui à peu près 40 pays qui sont vraiment dans un contexte de conflits armés, très souvent, qui sont fragiles, où il y a beaucoup de migrants qui sortent, par exemple, pour l'Europe. Hein. Et je crois que l'Europe, l'Allemagne, s'est réveillée un petit peu et ils ont reconnu qu'il faut changer aussi la politique, de la coopération. Il faut prendre notre continent voisin beaucoup plus sérieux qu'auparavant. Il faut aussi investir dans des structures propres de l'Afrique, par exemple, comme l'Union africaine. Il faut prendre sérieux les jeunes qui sont, par exemple, en Afrique et voir cette grand potentiel, aussi cette potentiel pour l'Europe. Peut-être pas comme migrants, mais comme citoyens de leur propre pays, continent, et comme un grand potentiel pour le développement de leur économie, de leur pays, etc., etc. Il y a un autre élément qui est peut-être l'écologie, qui joue aussi un très très grand rôle. Et je crois que les gouvernements en Afrique ont compris qu'il faut faire beaucoup plus qu'avant, mais aussi des bailleurs, plutôt peut-être les bailleurs du fonds traditionnel, ont compris qu'il faut changer leur politique, il faut investir beaucoup plus et que la responsabilité, ou la plupart de la responsabilité, est liée aux pays industriels.
C'est la fin de ce magazine, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve sur notre site internet dw.com/français, la rubrique Nos podcasts, droits et libertés. La semaine prochaine, second volet de notre entretien avec Matthias Mogge de la Weltunger Hilfe, l'agroaction allemande, et FENRO, plateforme d'ONG spécialisée dans l'aide humanitaire et le développement. Nous allons justement parler des difficultés qui se présentent aux travailleurs humanitaires. D'ici là, portez-vous bien, rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Thank you.